Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Canal Académie vous propose sur son site de nombreuses émissions sur l'énergie nucléaire, en compagnie de plusieurs académiciens des sciences, sur le fonctionnement des centrales françaises, sur l'histoire même de l'énergie nucléaire, ou encore sur l'analyse de l'accident nucléaire de Fukushima au Japon et sur le projet ITER. Dans cette nouvelle émission, Regards croisés, je vous propose de vous pencher cette fois-ci sur le traitement des déchets nucléaires en France. Nous verrons au cours de cette émission que certains déchets sont réexploités après traitement et que d'autres, au contraire, sont des déchets dits « ultimes ». Comment le circuit de gestion des déchets s'organise-t-il en France ? Pourquoi l'usine de retraitement à La Hague est-elle éloignée des centrales, ce qui occasionne des déplacements de matières potentiellement dangereuses et qui parfois suscite la polémique ? Combien de déchets produisons-nous en moyenne par an et que deviennent ces déchets enfouis dans le sol ? Quelles sont leurs durées de vie ? Quelle part des déchets est réexploitable ? Autant de questions que nous allons pouvoir poser à nos deux invités, Robert Guillaumont, Édouard Brézin. Bonjour.
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 Merci d'avoir accepté notre invitation au studio de Canal Académie. Robert Guillaumont, vous êtes radiochimiste, vous avez travaillé sur les questions liées à la chimie dans le nucléaire et la gestion des déchets radioactifs. Vous êtes membre de l'Académie des sciences, également membre de l'Académie des technologies, professeur honoraire à l'Université Paris-Sud, Paris 11. Édouard Brézin, vous êtes physicien, professeur émérite à l'École normale supérieure. Vous avez réalisé une partie de votre carrière au CEA et vous êtes président honoraire de l'Académie des sciences. La gestion des déchets radioactifs est gérée en France par l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets, et cela depuis 1979. La gestion des déchets est différente selon la dangerosité et la durée de vie des déchets radioactifs. Alors, question simple, qu'est-ce qu'un déchet de haute activité, de faible activité, et qu'est-ce qu'on appelle un déchet de vie courte et de vie longue ? Édouard Brézin, peut-être pour commencer.
Oui, je ne vous donnerai pas et je laisserai mon collègue Robert Guillaumont vous donner les chiffres précis. C'est vrai que les déchets en France sont classés en trois catégories, que les déchets principaux issus des centrales nucléaires, qui sont ceux qui préoccupent légitimement nos concitoyens, sont justement les déchets de haute activité à vie longue, qui résultent du fonctionnement direct du combustible de l'industrie nucléaire et des combustibles usés. C'est de cela dont je crois il faut parler le plus. Bien évidemment, au cours de la vie et de la mort des centrales, il y a bien d'autres déchets. Il y a d'abord les déchets qui sont liés à la vie des techniciens autour, leurs combinaisons, leurs gants de travail, tout cela sont à terme des déchets, mais qui évidemment posent des problèmes de nature très différente et assez simples. Et puis enfin, il y a des déchets de très faible activité, mais de très grand volume, qui résultent déjà des installations nucléaires arrêtées et des centrales lorsqu'elles seront en fin de vie. Elles ne présentent que des problèmes liés à leur très grand volume. Voilà, en gros, très rapidement, l'ensemble des déchets. Vous avez parlé de l'ANDRA sans dire que c'est l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs.
Radioactifs,
il ne faut pas oublier, radioactifs ne s'occupent pas des déchets industriels, du mercure, du cadmium, du plomb, etc. Il s'agit de radioactivité, c'est bien cela dont nous parlons aujourd'hui. Mais je suis sûr que Robert Guillaumont dira les choses de manière bien plus précise que moi.
Justement, sur les déchets de haute activité à vie longue, alors qu'est-ce qu'on appelle haute activité à vie longue ?
Alors, il faut bien voir qu'en France, d'abord, tous les déchets que l'on appelle déchets nucléaires, c'est-à-dire qui sont issus de l'électronucléaire français, sont des déchets de retraitement. La politique française consiste à retraiter les combustibles usés des centrales nucléaires pour en utiliser pour partie le plutonium afin de refaire du combustible MOX et récupérer ainsi l'énergie qui se trouve dans les combustibles usés. Alors les déchets de haute activité, sous-entendu à vie longue, sont constitués par les produits de fission, qui sont inhérents à la production d'énergie nucléaire, et actuellement ce qu'on appelle les actinides mineurs, c'est-à-dire des éléments radioactifs autres que le plutonium et l'uranium qui se trouvent dans les combustibles. Donc cette matière qui est très radioactive est vitrifiée et coulée dans des colis. Et ce sont ces colis que l'on appelle les déchets de haute activité à vie longue. D'autres colis de déchets accompagnent ces déchets de haute activité. C'est ce qu'on appelle les déchets de moyenne activité à vie longue, qui sont constitués par essentiellement les gaines des combustibles, c'est-à-dire les enveloppes dans lesquelles se trouvent l'uranium et le plutonium. Pour vous donner une idée de la quantité de déchets que l'on a produit en 2010, j'ai le chiffre sous les yeux, c'est 2700 m3 de déchets de haute activité à vie longue et 41 000 m3 de déchets de moyenne activité à vie longue.
Et ces colis, alors, où sont-ils stockés ?
Alors, ces colis ne sont pas stockés pour l'instant. Ces colis sont entreposés. On dirait que c'est une question de langage, mais c'est très significatif. Ils sont entreposés actuellement à La Hague, dans des ateliers qui ont été conçus pour se protéger du rayonnement qu'ils émettent. Cet entreposage durera quelques décennies avant, si les projets aboutissent, être mis en stockage géologique.
Et je me tourne vers vous alors, Édouard Brézin. Il y a un laboratoire déjà pour travailler sur ces questions et à terme, il est question de développer justement une station d'enfouissement profond de ces déchets. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ?
Oui, je crois qu'il est important à ce stade de situer le cadre dans lequel tous les travaux sur les déchets se font en France. En 1991, le Parlement, les députés se sont penchés sur la question « Que faut-il faire des déchets nucléaires ?» Et entendant des avis divers, ne voulant pas trancher sans être plus éclairés, ils ont pris une démarche que je trouve très remarquable, qu'on aurait pu prendre dans d'autres cas où des questions d'ordre scientifique ou technologique intéressent la société et l'interrogent, puisqu'elles ne sont pas simples. Au lieu de trancher, ils ont demandé aux organismes publics de travailler et leur ont donné rendez-vous pour l'année 2006, 15 ans de travail. Donc, pendant 15 ans, la loi a donné l'injonction aux organismes publics que sont le CEA, le commissaire à l'énergie atomique, le CNRS, qui a aussi des recherches en ce domaine, les universités publiques, les universités, l'ANDRA, l'Agence nationale pour les déchets dont vous parliez, de travailler sur cette question. Rendez-vous pris en 2006 et la loi était très précise. La loi disait... Nous voulons vous exploriez les trois grandes pistes pour nous conseiller à terme, que sont l'entreposage, qui, c'est-à-dire consiste à laisser les déchets en surface, qui est ce que, par exemple, ce que font aujourd'hui les États-Unis, qui n'en font que l'entreposage. Le stockage profond, pour lequel il y a, pour l'instant, un laboratoire d'études de la possibilité de ce stockage, qui est situé dans l'est de la France, entre la Haute-Marne et la Meuse, à Bure. Et enfin, la transmutation, qui, pour l'instant, n'a donné lieu à aucune expérimentation, puisque nous n'avons aucune installation qui permet d'étudier la transmutation, c'est-à-dire la transformation des noyaux radioactifs en les bombardant pour les transformer en noyaux de moindre activité. Donc, ces trois axes, rendez-vous était pris en 2006. En 2006, comme je le disais à l'instant, il y a des recherches qui n'avaient pas encore pu être entreprises. Le délai a été prolongé. Un nouveau rendez-vous a été donné. Donc, il devait y avoir initialement deux laboratoires souterrains d'études, l'un en site argileux, qui est celui de Bure, et l'autre en site granitique. Pour différentes raisons, seul le laboratoire dans le site de l'Est a été étudié. Et en 2016, je crois, rapport doit être fait au Parlement pour que le Parlement se repose cette question d'un site de stockage profond. Je signale que les États-Unis avaient à l'étude un site de stockage profond dans les Yucca Mountains et que le président Obama, en 2009, a arrêté l'autorisation donnée de l'expérimentation à ce site car les Américains ont considéré que géologiquement, sa stabilité n'était pas suffisante pour qu'on puisse poursuivre l'étude du stockage dans ce site.
Donc on comprend que c'est aussi délicat.
C'est un sujet délicat. Il faut une stabilité géologique. Il faut s'assurer que l'argile, à terme, restera, même si l'argile est bien imperméable, mais est-ce qu'il n'y a pas des micro-fractures ? C'est un véritable sujet d'étude scientifique qui est en cours chez nous, et dont je me félicite. Voilà.
Un stockage profond, Robert Guillaumont, ça veut dire quoi pour donner des chiffres? C'est un stockage en dessous de 300 mètres de profondeur?
Alors, simplement, je reviens deux minutes sur ce que vient de dire Édouard Brézin. La loi de 1991, c'était une loi de recherche, qu'il a très bien expliqué. La loi de 2006, qui est arrivée donc après l'aboutissement de ces recherches, c'est une loi de programmation. C'est-à-dire qu'elle comporte des instructions pour que l'État, tous les acteurs du nucléaire, convergent vers une gestion de tous les déchets radioactifs. C'est-à-dire tous les déchets dont on a parlé, y compris les déchets de haute activité, et notamment tous les déchets, je dirais, à vie longue. Et ce qui est aussi important, qui est souvent un peu ignoré, c'est qu'il existe un plan national de gestion des déchets radioactifs qui est sous la tutelle de l'autorité de sûreté nucléaire, qui met en œuvre, si vous voulez, toutes les recommandations de la loi. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Il faut bien voir que c'est l'ensemble de tous les déchets qui fait actuellement l'objet d'études et l'objet de décisions. Alors pour en revenir au stockage géologique, eh bien la nature même des colis de déchets dont on a parlé auparavant, c'est-à-dire des déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue, est telle qu'on ne peut pas envisager une gestion, je dirais, en surface, qui relève uniquement de la société et de tout ce qu'on pourrait mettre en œuvre. Il faut absolument confier le confinement de toutes les matières, enfin de toute la radioactivité qui pourra un jour, dans un horizon très lointain, s'échapper à la géologie. Et c'est pourquoi tous les pays, et la France en particulier, pensent qu'au-delà de 400-500 mètres sous terre, on peut faire confiance à la géologie, et en particulier à la géologie qui a été choisie en France, qui sont les argiles du Kalovo oxfordien. Donc, un stockage géologique, eh bien, ce sera une installation nucléaire de base souterraine, disons à moins 500 mètres, dans laquelle on descendra des colis qui seront ce qu'on appelle des colis de stockage, c'est-à-dire des colis qui seront constitués des colis primaires que l'on a fait aujourd'hui avec deux nouvelles enveloppes pour augmenter la sûreté et qui seront déposés. Il faut bien voir que pour remplir un stockage géologique, aujourd'hui, et pour y mettre tous les déchets du parc actuel des réacteurs, il faudra à peu près une centaine d'années. Ça paraît beaucoup, mais pour manipuler ces colis de déchets qui sont très radioactifs, on ne peut pas aller plus vite que de descendre 1 à 3, 4 colis par jour. Vu le nombre de colis, une simple règle de 3 montre qu'il faut à peu près une centaine d'années, c'est-à-dire à peu près 3 générations de travailleurs, pour remplir le stockage.
À partir des éléments que nous avons déjà ici entreposés.
À partir de ce qui est prévu 10 mètres. Mmh. Et ce qui est prévu 10 mètres en France, ce sont tous les déchets du retraitement de tous les combustibles du parc actuel, des 58 donc réacteurs actuels, plus des déchets qu'on appelle historiques, qui proviennent de l'époque où on faisait la force de dissuasion, plus peut-être les déchets du premier EPR qui est en construction à Flamanville.
Alors ça c'est un premier point, mais alors Édouard Brézin, il y a un autre terme important, c'est que ce stockage profond à terme devrait être réversible. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire ce que vient faire ce mot de réversibilité?
Oui, c'est un mot qui est très discuté. Il repose sur l'idée que laisser pendant beaucoup de générations un site auquel on ne pourrait pas toucher est une chose dont certains pensent qu'elle ne devrait pas être autorisée. Bon. Néanmoins, même si je ne suis pas assez versé dans ces questions de gestion des déchets, néanmoins, je crois que l'activité sera telle que je ne suis pas certain que cette réversibilité, qui paraît effectivement plus avantageuse, soit techniquement possible dans des conditions de sécurité suffisantes. Je n'en suis pas convaincu. J'ai essayé d'en parler avec certains de mes collègues qui, je pense que M. Robert Guillaumont pourra donner des choses plus précises. En ce qui me concerne, je vois bien le souci que la réversibilité exprime. Je ne suis pas certain que ce souci soit compatible réellement avec un stockage dans les bonnes conditions de sécurité.
Robert Guillaumont, justement, sur ce point.
C'est d'ailleurs une question tellement centrale qu'elle sera confiée au Parlement pour décider de la durée de la réversibilité. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, il faut une centaine d'années donc, pour remplir un stockage géologique. Cela veut dire que s'il y avait des incidents ou si, malgré tout le soin qu'on apportera, on voit qu'il y a des choses qui se passent pas trop mal, on pourra récupérer les colis, c'est-à-dire les remonter en surface. Alors, c'est pas facile de les descendre, ça sera pas facile de les remonter, donc évidemment de les remonter s'il fallait le faire, et pour les remettre en entreposage. Donc ça, c'est la notion de réversibilité. Mais cette notion, aujourd'hui, le stockage tel qu'il est décidé, s'il est ouvert vers 2025, il doit être réversible pour 100 ans, c'est-à-dire pendant à peu près, si vous voulez, le temps qu'il faut pour le remplir. Néanmoins, avant de commencer l'exploitation du stockage, le Parlement doit se prononcer sur ce qu'il entend, c'est-à-dire par les politiques, ce qu'ils entendent par la réversibilité. Il y a une réversibilité, donc, comme je vous l'ai dit, de récupération des colis, mais il y a aussi une réversibilité dans les décisions à prendre. Et ça, c'est plus politique, je dirais, que technique. Remonter les colis, je pense que les ingénieurs sauront le faire. Mais la réversibilité des décisions éventuelles, est-ce qu'on le poursuit, est-ce qu'on arrête, est-ce que, bon, tout ça, ça relève du politique. Et justement, dans le processus qui est en route aujourd'hui pour aboutir à une ouverture de ce stockage vers 2025, il y a plusieurs étapes. L'année prochaine, il y en a une qui est importante, c'est un débat public sur le projet industriel que l'ANDRA souhaite réaliser, pour être en accord évidemment avec la loi de 2006. Donc l'ANDRA doit déposer vers mi-2015 une demande d'autorisation de création, à la suite évidemment de ce qui sera dit dans le débat public. Ensuite, entre 2015 et 2016, il y aura des avis qui sont donnés par la Commission nationale d'évaluation des déchets radioactifs, par l'OPESC et par l'ASN sur la sûreté de ce stockage éventuel. Et ensuite, le Parlement devra se prononcer, disons peut-être vers la fin 2016, début 2017, sur les conditions de la réversibilité. S'ensuivra une enquête publique, comme dans toutes les grandes constructions, et le décret d'autorisation qui devrait arriver avant la mise en service industrielle qui est prévue vers 2025.
Il y a un élément que nous n'avons pas situé, on aurait dû le faire au début. C'est au sujet du retraitement. Comme nous avons essayé de le dire tout à l'heure, le retraitement consiste à extraire du plutonium qui va resservir de combustible. Il réduit quand même de manière assez considérable le volume des déchets. Il ne faut pas perdre ça en vue. Je crois que en consomme environ 1200 tonnes, si ma mémoire est exacte, de combustible par an. Je pense qu'il y en a environ 800 ou 850 qui sont récupérés.
Actuellement, il y a 1000 tonnes qui sont retraitées.
Ah, même 1000 tonnes qui sont retraitées.
Donc, sur les 1200 tonnes.
Voilà. Donc, vous voyez que le volume des déchets, cette option de retraitement n'est pas comme seul objet de produire du combustible, elle a aussi une réduction du volume par un facteur important des problèmes des déchets.
Justement, sur ces déchets, vous le disiez au début de cette émission, Édouard Brézin, donc, on les classe en trois catégories, et donc on a parlé des déchets haute activité à vie longue. Vous nous aviez parlé aussi des déchets liés aux produits utilisés par les techniciens, et enfin, les déchets des installations nucléaires en fin de vie. Alors, j'imagine qu'à un moment donné, il va y avoir des centrales démantelées, ce qui va multiplier les déchets à venir. Édouard Brézin.
Oui, ce sont des déchets de faible activité. Déjà, pour les déchets de moyenne activité, je crois qu'on procède à des compactages qui sont possibles par les moyens industriels pour réduire le volume.
Mais qui restent volumineux.
Ils sont volumineux. Le problème, c'est que, effectivement, si on veut un jour restituer au vert, comme on dit, un site qui a servi à des installations nucléaires, il y a quand même un volume de béton très faiblement radioactif, mais qui est quand même qu'on ne peut pas relivrer à la vie ordinaire ou aux déchets ordinaires, dont il faudra se soucier. Donc voilà, ça fait partie de la vie des installations et des questions. C'est pas considérable à l'échelle d'un pays, hein, faut pas exagérer. C'est quelques, si vous voulez, les activités minières du nord de la France et de la Belgique ont laissé des sites infiniment beaucoup plus importants, inexploitables, inexploités, que ne le feront nos 58 réacteurs nucléaires.
Robert Guillaumont, sur ce point ?
Oui, non, mais sur ce point, je voulais simplement dire que lorsqu'on retraite à peu près 4 assemblages de combustible usé, les assemblages de combustible usé, ce sont des objets qui font 5 mètres de haut sur à peu près 30 cm carrés à la base. Donc ce sont des objets qui sont très très lourds, très volumineux. On obtient un colis de déchets d'environ 100 litres de déchets de haute activité. Bon, donc vous voyez qu'il y a évidemment une réduction. Bon, ce qu'il faut bien voir, qu'en contrepartie, il faut avoir le plutonium. Enfin, le plutonium, lui, il ne va pas aux déchets. Donc on le garde en entreposage et on fait avec du MOX. Ce qu'il faut également dire, c'est qu'aujourd'hui, les combustibles MOX ne sont pas retraités, donc vont en entreposage et sont considérés comme une matière stratégique pour lancer les réacteurs de quatrième génération.
Donc ce ne sont pas des déchets, ce sont...
Donc
quel est le terme employé ?
Les MOX ne sont pas des déchets dans la mesure où on lancera, on l'utilisera pour les réacteurs de quatrième génération. Ceci, ce n'est pas pour tout de suite non plus. Il faut bien voir que pour remplacer le parc actuel, par exemple, français, par des réacteurs à neutrons rapides, susceptibles même de faire de la transmutation, il faudra à peu près une centaine d'années aussi. Donc, comme je le disais tout à fait au début, les questions de temps pour la société, par exemple, sont des questions majeures. Toutes les décisions que l'on prend engagent l'avenir du nucléaire sur des centaines d'années. Et ça, c'est pas de l'industrie, je dirais, classique.
Édouard Brézin.
Oui, je crois qu'il faut effectivement que les gens ne voient pas cette échelle des choses. Madame Merkel, les Allemands ont donc décidé d'arrêter leurs centrales nucléaires. Ils auront besoin d'avoir une capacité en matière de gestion de sites autrefois nucléarisés pendant près d'une centaine d'années. Ça mettra au moins 80 ans de pouvoir restituer les sites qui ont été utilisés pour ça. Donc, les échelles de temps sont considérables. C'est vrai, ça fait partie des caractéristiques de cette industrie nucléaire. Donc, il faut continuer à avoir une vigilance et des autorités de sûreté indépendantes, et etc., pendant très longtemps. Les Allemands, j'espère, n'oublieront pas qu'ils ont du nucléaire à retraiter pendant très longtemps.
Et cette décision en France, qui sera peut-être donc de réduire une partie de notre énergie nucléaire pour l'électricité, cette diminution aurait un impact après sur justement l'élaboration, la mise en chantier de ces centrales de quatrième génération ? Pas spécialement ?
Non, si vous voulez, nous venons d'assister, nous sommes en train d'assister à une campagne électorale dans laquelle on a beaucoup parlé du nucléaire, beaucoup parlé de la réduction de la part du nucléaire dans notre production d'électricité, qui, suivant les partis, est allé de zéro réduction à 100% de réduction. On a beaucoup parlé d'arrêter le MOX, on a beaucoup, etc. Simplement, je crois qu'il est absolument impossible de discuter du nucléaire sans discuter de la politique énergétique de la France, y compris de ses rejets de CO2 et de son indépendance énergétique. On ne peut pas considérer de manière isolée la question. Nous vivons dans un monde qui a besoin d'énergie, et même si on arrive à faire des réductions et des économies d'énergie, ce que je souhaite comme tout le monde, nous continuerons, compte tenu de la croissance démographique du monde, compte tenu du fait qu'il y a des pays qui sont en train quand même de sortir du sous-développement, nous aurons besoin d'énergie, quoi qu'il arrive. Sans être un futurologue, il est facile de voir qu'en 2050, le monde aura besoin de 2 fois plus d'énergie qu'aujourd'hui et de produire moins de CO2, et donc il va nous falloir tout. Et je ne vois pas comment on peut arriver à satisfaire ces contraintes sans nucléaire en disant qu'on va arrêter tout le nucléaire. Ça me paraît impensable et ça n'est pas que j'oppose le nucléaire au reste. Je pense qu'on aura besoin de tout. Mais l'idée qu'on peut le faire sans nucléaire me paraît une idée, personnellement, je trouve totalement irréaliste, totalement impossible.
Parenthèse fermée. J'aimerais de nouveau me tourner vers vous, Robert Guillemont, et regarder un peu plus en détail l'usine de retraitement de La Hague, qui est donc un centre de traitement du combustible usé, dans lequel on traite non seulement une partie du combustible nucléaire provenant de France, mais également d'autres pays. L'Allemagne, les Pays-Bas, on en parle de temps en temps lorsqu'il y a des trains qui amènent ces combustibles usés, qui viennent également de Belgique, de Suisse et aussi du Japon. Pourquoi recevons-nous ces produits radioactifs, Robert Guillemont ?
Eh bien, l'industrie du retraitement, c'est quelque chose qui accompagne le nucléaire et elle a commencé avec le nucléaire militaire. Ça, c'est absolument évident. Donc, il y a beaucoup de pays qui retraitent du combustible, qui n'est pas du combustible sorti de centrales électronucléaires, mais de réacteurs destinés à fabriquer du plutonium. Bon, ça, ça existe. Alors ensuite, la décision de la France des années 70, je pense, était qu'on allait aller vers les réacteurs à neutrons rapides beaucoup plus rapidement que ça n'a été. C'est-à-dire qu'on a pensé à Superphénix qui a tourné et l'idée, c'était qu'il fallait du plutonium à tout prix. Bon, à la suite de l'arrêt de Superphénix, la politique a été d'utiliser une partie du plutonium dans le combustible MOX. D'accord ? Mais beaucoup de pays ont eu la même idée, en particulier l'Allemagne, la Belgique, le Japon. Donc l'expérience française, qui a été quand même, il faut le dire, un succès dans le retraitement, a fait qu'un marché s'est ouvert, le marché du retraitement, dont Areva, bon, finalement, est devenu un petit peu le champion. Et tous les pays qui voulaient faire du combustible MOX, en particulier l'Allemagne, le Japon, eh bien, ont passé des contrats de retraitement avec Areva, qui était Cogéma à l'époque. Et donc c'est comme ça que l'usine de La Hague est devenue une grande usine de retraitement avec une capacité importante qui n'est pas utilisée à plein aujourd'hui parce que, eh bien, il y a des pays qui ont arrêté le retraitement, en particulier l'Allemagne, la Belgique, la Suisse. La Suisse aussi a utilisé du combustible MOX pour revenir donc à un nucléaire qui est uniquement fondé sur les réacteurs et le combustible usé comme déchet. C'est-à-dire, c'est par exemple le cas de l'Amérique. Mais par exemple aussi, les Russes retraitent beaucoup de combustible, probablement pas beaucoup de combustible civil, mais du combustible militaire probablement.
J'aimerais vous faire commenter une carte qui est sous nos yeux et que l'on retrouvera aussi sur le site de Canal Academy. J'aimerais que vous nous la commentiez. Alors, je précise pour nos auditeurs que l'on retrouve cette carte sur un site internet qui s'appelle déchetsradioactifs.com. Voilà. Et sur cette carte, il est écrit « Des déchets près de chez vous ». Et on y retrouve des points dans le nord de la France et puis également le long du couloir rhodanien. Oui, oui. Donc, j'aimerais que vous nous disiez à quoi correspondent justement ces points, Robert Guillemont et Edouard Brézin.
Ben, ce plan, il correspond à des entreposages et des stockages de déchets. Il y a beaucoup d'entreposages de déchets, des entreposages de déchets radioactifs, donc d'exploitation, soit des réacteurs, soit des usines qui accompagnent tout le cycle du combustible. Mais en stockage, il n'y a que deux endroits où vraiment on stocke. C'est les déchets que l'on appelle de faible activité à vie courte, c'est-à-dire dont on a peu parlé aujourd'hui, mais qui ont un volume important, et c'est à Soulaine, c'est dans l'Aube. Il y a eu un stockage de ces déchets de faible activité à vie courte près de La Hague, c'est le stockage de la Manche, mais aujourd'hui il est fermé, on y a mis 500 000 mètres cubes de ces déchets. Le stockage de Soulaine, il est prévu pour 1 million de mètres cubes, et ça devrait suffire pour tout le parc actuel, tous les déchets produits par le parc actuel. Et puis, il y a également, mais je pense qu'ils ne sont pas mentionnés sur cette carte, les déchets des résidus de traitement de l'uranium qui sont disséminés dans la France, près des centres où on a exploité l'uranium.
L'uranium militaire.
Yeah. L'uranium pour des besoins de la force de dissuasion. Hein. Ce n'était pas de cet uranium qui a extrait en France, et était de l'uranium pour le militaire.
Autant d'espace pour lesquels il faut une sécurité spécifique, Edouard Brézin ?
Alors déjà, avant de sécurité, il faut parler de sûreté. Je crois qu'il faut d'abord réaliser, on en a beaucoup parlé au moment de l'accident tragique de Fukushima, À côté des centrales, il y a des piscines dans lesquelles on commence par mettre les réacteurs, les combustibles usés, et pendant lesquels on les laisse, c'est quoi, une dizaine d'années, hein, quelque chose comme ça.
Aujourd'hui, c'est à peu près une dizaine
donc,
d'années.
Donc, pendant une dizaine d'années, on n'y touche pas. Les Américains, ils laissent ça jamais, en quelque sorte, mais nous, pendant une dizaine d'années, on n'y touche pas avant de les envoyer à l'arc. Donc, vous pourriez dire, une centrale nucléaire, tout le monde en voit lorsqu'on se promène à travers la France, c'est un centre de déchets, en quelque sorte, puisqu'il y a des combustibles en piscine qui attendent de refroidir un peu avant qu'on puisse commencer à s'en soucier et à les envoyer. Donc, les conditions de sûreté sont importantes, et l'accident de Fukushima nous a montré que la nécessité de s'assurer du refroidissement de ces piscines, et ça a été ça l'un des problèmes, même à un moment où on a craint un accident encore pire que ce qui s'est réalisé à cause de la piscine du réacteur numéro 3 de Fukushima. Donc il faut que les conditions de sécurité de ces piscines, elles ont été repensées à l'issue de l'analyse qu'a fait l'autorité de sûreté à l'issue de cet accident de Fukushima, donc la sûreté va être améliorée. Et a priori, si vous voulez, n'étant pas soumis en France à des tsunamis, on peut penser que les conditions de sûreté de l'entreposage près des réacteurs sont bonnes. C'est vrai qu'il y a des conditions de sûreté à respecter, qui sont importantes, qui sont délicates, mais pour l'instant, enfin, on peut toujours imaginer des accidents, bien sûr, mais pour l'instant, il n'y a pas eu d'accident majeur, et j'espère que ça durera, lié à ces sites. Donc, de la même façon que moi, j'ai travaillé pendant des années au pied d'un réacteur, je travaillerai sans trop de crainte à proximité d'un centre de déchets.
Robert Guillaumont, à La Hague, donc, la centrale est installée le long des côtes, il n'y a pas de risque particulier. Enfin, la centrale, l'usine de retraitement des déchets.
L'usine de retraitement.
Pardon.
Non, je pense qu'il n'y a pas de risque, je veux dire, d'accident qui conduirait à des conséquences telles qu'il peut se produire avec un réacteur, évidemment. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'endroit, d'atelier ou de cuve dans lesquelles peut se développer une excursion critique, c'est-à-dire une réaction en chaîne. D'accord ? On n'est plus du tout dans la configuration des réacteurs qui est recherchée, évidemment, pour dégager une énergie. Donc, ce sont des ateliers qui sont passifs du point de vue de la criticité. C'est très radioactif, donc la sûreté doit être assurée, évidemment, pour les travailleurs et pour, évidemment, tout le public. Mais on ne craint pas l'explosion, je dirais, de nature industrielle, quoi. Alors, il reste le problème de la sécurité qui est autre chose, d'accord ? Et sur lequel peut-être Brézin peut dire...
Non, je n'ai pas de lumière particulière, mais il est certain que des gens mal intentionnés qui voudraient s'approprier des matières radioactives, à condition qu'ils sachent le faire, sans s'irradier eux-mêmes, et qui ensuite voudraient s'en servir pour des actions de terrorisme, c'est-à-dire effrayer les populations, sont toujours à craindre, et là-dessus, il est hors de doute que les mesures propres à la sécurité doivent être prises. Elles sont bien prises en matière civile. En matière militaire, je ne sais rien. J'espère que les militaires font très attention. C'est vrai qu'il y a peut-être trop de distance actuellement entre sûreté et sécurité, c'est-à-dire entre les installations elles-mêmes qui sont sous l'autorité de l'autorité de sûreté nucléaire en France, qui est une autorité très indépendante, très compétente, dont on reconnaît que c'est une des forces du nucléaire en France. C'est la qualité de l'autorité de sûreté. La sécurité est quand même plus, c'est plus obscur, hein. J'espère, il faut leur faire confiance, mais je serais un peu plus tranquille s'il y avait une vue coordonnée. Et en particulier également si les installations nucléaires qui dépendent de la défense nationale étaient sous la dépendance d'une autorité de sûreté aussi clairement compétente et indépendante que ça ne l'est en matière civile. Donc je trouve que le nucléaire civil se présente mieux que le nucléaire militaire, et du point de vue de la sûreté et de la sécurité. Et j'en profite pour dire mon étonnement de ce que dans ces discussions sur le nucléaire dans les campagnes, j'ai entendu beaucoup de choses. Beaucoup de gens s'interrogeaient sur le nucléaire civil, et à ma stupéfaction, grande stupéfaction, personne ne s'est jamais interrogé, jamais entendu personne s'interroger sur la pertinence du nucléaire militaire, sur la réduction éventuelle des armes, etc. Puisqu'on est dans ces sujets, je m'étonne.
Voilà, on arrive au terme de notre émission. Robert Guillaumont, juste pour terminer cette émission, quelques mots sur justement donc l'avenir du traitement des déchets en France. Donc à l'horizon 2025, pour nous résumer, nous devrions avoir
l'avenir pour l'horizon 2025, eh bien, c'est l'ouverture d'un stockage géologique. Dans ce stockage, comme j'ai dit, je peux vous donner quelques chiffres, je les ai sous les yeux, mm-hmm. de toute façon. On peut considérer que vers 2040, c'est-à-dire au moment où on commencera à descendre des colis peut-être dans le stockage, eh bien, pour y stocker tous les déchets du parc actuel, c'est-à-dire 40 ans de fonctionnement simplement, 60 gigawatts électriques de puissance, en admettant que le nucléaire continue après 2040, eh bien, le bilan, ça conduit à peu près à 50 000 colis de déchets de haute activité à vie longue, 180 000 colis de déchets de moyenne activité à vie longue et environ 5 500 colis d'assemblage de combustibles usés spéciaux qui sont des combustibles usés, des réacteurs de recherche, par exemple, que l'on ne retraite pas. Et ce scénario, c'est le scénario qui correspond à la volonté des décisions politiques qui a été de pas de plutonium aux déchets. Voilà le mot de conclusion.
Édouard Brézin.
On n'a pas eu le temps de parler de la transmutation.
Oui,
elle faisait partie aussi des obligations légales. Un réacteur doit être construit. Actuellement, ça fait partie des obligations de la France, enfin que la France s'est donnée, qui s'appelle Astrid, construit par CEA, EDF et Areva, et dans lequel j'espère qu'on pourra faire des études à terme de transmutation qui peut-être changeront la nature de l'industrie électronucléaire un jour. Cette industrie électronucléaire, il faut quand même bien voir qu'elle n'est pas plus figée que ne l'est l'industrie automobile ou l'industrie aéronautique. Nous connaissons une industrie nucléaire aujourd'hui, et si la France continue avec du nucléaire, celle de demain n'aura peut-être rien à voir avec celle que nous connaissons, de la même façon que nos voitures ne ressemblent pas à celle aux deux Dion-Bouton du début du XXe siècle. Donc, il ne faut pas perdre ça de vue.
Je vous remercie à tous les deux d'être venus nous voir. Merci de nous avoir apporté vos regards complémentaires sur justement les gestions des déchets nucléaires. Merci à vous et j'espère à bientôt pour une prochaine émission. Merci à vous.
Merci. Merci.